22h passées de 10 secondes, vous êtes sur Europe 1. Tout de suite, le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. La passagère du chauffard de Lorient, mise en examen ce soir pour non-assistance à personne en danger, elle a été placée en détention provisoire. Après 3 mois de grève aux urgences, le gouvernement débloque 70 millions d'euros. Bien, mais insuffisant, répondent les intéressés. Les Républicains, je les aime beaucoup, mais ça n'est plus mon quotidien. Nicolas Sarkozy, en déplacement à Belfort, répond à ceux qui réclament son retour. Les États-Unis continuent d'accuser l'Iran après les attaques de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Téhéran continue à nier. Et puis c'est l'effervescence du côté de Villeneuve-les-Avignon. Barack, Michelle Obama et leur fille viennent d'arriver pour une semaine de vacances. Il a fait plus de 40 degrés en Corse aujourd'hui. Les écoles d'Ajaccio sont même restées fermées. La photo Sirocco, ce vent en provenance d'Afrique du Nord. Demain, on va perdre quelques degrés, même si les températures resteront élevées dans le sud-est. Une dégradation orageuse est attendue dans l'après-midi sur Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté. Ne manquez pas les prévisions complètes de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Sébastien Soriano. Il est le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation en charge des télécommunications.
Europe 1.
À Lorient, la passagère du chauffard qui a tué un petit garçon de 10 ans a donc été mise en examen ce soir. Vous êtes en direct, Hélène Terzian. Elle a été placée en détention provisoire dans la foulée.
Oui, Isabelle, elle est en ce moment même transférée en prison dans un quartier pour femmes d'une prison de la région. La passagère est mise en examen pour non-assistance à personne en danger, un délit qui pourrait lui coûter jusqu'à 7 ans de prison. Juste avant de connaître cette décision, nous avons pu voir dans le bureau de la juge de la liberté et de la détention cette jeune fille, quelques minutes, les cheveux attachés en chignon, en jean, basket et pull beige. Les mains croisées, on l'a entendu dû répondre au juge avec une petite voix, visiblement fatiguée, anxieuse, après 3 jours de cavale et plus de 40 heures de garde à vue. Une audition pendant laquelle elle a livré aux enquêteurs un témoignage qui leur a semblé confus, disant ne pas savoir où se trouvait son compagnon. Elle dit aussi avoir erré dans la forêt pendant 3 jours après s'être séparée du chauffard. Le jeune homme de 20 ans, lui, est toujours en fuite. Une vingtaine de policiers sont à ses trousses. Il n'exclut pas la piste d'éventuels complice. Ses proches me confiaient encore tout à l'heure leur angoisse, leur épuisement aussi. Il martèle qu'il doit se rendre. Le fuyard encourt une peine de 10 ans de prison.
Merci Hélène Terzian en direct de Lorient pour Europe 1. Notez qu'un homme de 41 ans qui avait faussement rapporté la présence dans la Nièvre du chauffard en question a été condamné aujourd'hui à 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Son témoignage avait entraîné la mise en place d'un très important dispositif de gendarmerie. 63 militaires mobilisés ainsi qu'un hélicoptère. Après 3 mois de conflit, finalement, la ministre de la Santé a donc sorti le chéquier. Elle débloque 70 millions d'euros pour les services d'urgence des hôpitaux. Mélanie Gomez, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Concrètement, Mélanie, ça représente quoi pour les personnels ?
Eh bien d'abord, sur ces 70 millions d'euros, il y en a 55 qui vont être versés directement aux soignants des urgences, enfin à tous sauf aux médecins, donc aux infirmières, aux aides-soignants, par le biais d'une prime de 100 euros net par mois. Et le versement de cette prime, ça va commencer très vite, dès le 1er juillet prochain. Ensuite, dans cette enveloppe d'urgence de 70 millions d'euros, il y en a 15 qui vont être débloqués, là aussi tout de suite, pour aider les services d'urgence les plus saturés à renforcer leurs effectifs en prévision de l'été qui arrive. Cette mesure devrait permettre dans ces services à bout de souffle, de gérer les vacances aussi des uns et des autres tout en gardant un maximum de lits ouverts. Donc ces 70 millions tout de suite, les urgentistes voulaient du concret. Cette fois, je crois qu'ils en ont. Alors certes, ça ne va pas régler le problème des urgences en France à l'année, mais déjà, c'est un premier pas pour passer l'été. Et pour après l'été, justement, Agnès Buzyn a lancé ce matin une grande mission commando, a-t-elle dit, qui va analyser les dégâts, faire le diagnostic et surtout proposer d'autres solutions, mais cette fois, pas avant le mois de novembre.
Les précisions de Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Alors, en attendant ces nouvelles mesures, pour les syndicats d'urgentistes, le compte n'y est pas, c'est bien, mais c'est comme poser un plâtre sur une jambe de bois, estime Christophe Prudhomme. Il est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes.
C'est une bonne nouvelle, mais on est très loin du compte. L'essentiel de ces 70 millions vont servir à payer une prime de 100 euros, alors que la revendication, c'est 300. Il reste que 15 millions d'euros pour les effectifs, c'est la principale revendication. Et 15 millions d'euros, c'est 350 postes pour les 530 services d'urgence publique en France. Un demi-poste par service, vous vous rendez compte ? Un demi-poste par service. On est très en deçà de la gravité de la crise. Nous avons besoin d'un plan Marshall pour les urgences et pour l'hôpital. C'est pas à la hauteur des enjeux.
Christophe Prudhomme, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes, qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. Et notez qu'Agnès Buzyn sera l'invité dimanche à 10h du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Je vous le disais, on a dépassé les 40 degrés aujourd'hui en Corse. C'est un record. Cette subite hausse des températures est le résultat d'un coup de sirocco, un vent en provenance d'Afrique du Nord qui transporte du sable tout droit venu du Sahara. Résultat, une chaleur insupportable qui a entraîné aussi une pollution de particules fines, de poussière. Et à Ajaccio, la municipalité a même décidé de fermer toutes les écoles maternelles et primaires. Et les habitants qui le pouvaient ont préféré rester chez eux. Écoutez, Frédéric qui tient une paillote à Ajaccio.
On peut parler d'un choc thermique. Hein. Vous passez de 22 ou 23 degrés à 40, c'est compliqué. Très chaud, les gens sont restés chez eux ou au boulot aujourd'hui. Oui. Les terrasses de café et de restaurants vides, les plages vides, ils sont restés chez eux à la clim. Ça se voit parce que le ciel est très bas. Si vous avez une espèce de nuage orange, c'est une chape de plomb.
Frédéric, jointe à Ajaccio par Jean-Sébastien Soldaini, et ne manquez pas bien sûr les prévisions météo de Valérie Darmon, ce sera à la fin de ce journal. Les premiers incendies importants de l'année dans le Var, à l'Allon-de-les-Morts et au Lavandou, tous les deux sont maîtrisés, mais un troisième reste préoccupant ce soir sur la commune de Hyères. Alain Delon, brièvement hospitalisé en banlieue parisienne à l'hôpital américain de Neuilly, a priori rien de grave, l'acteur a 83 ans. Il a reçu une palme d'honneur récemment au Festival de Cannes et cette semaine il pose en compagnie de Jean-Paul Belmondo pour le numéro du 70e anniversaire du magazine Paris Match. Europe 1, il est 22h06 et l'actualité, c'est aussi un retraité de retour sur le devant de la scène aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, qui était à Belfort pour inaugurer une rue Simone Veil. Il s'est aussi rendu à l'usine de General Electric, visée par un plan social. Vous savez qu'après la déroute de la droite, certains plaident pour son retour. Arthur Mbaché, vous avez suivi l'ancien président. Il en dit quoi ?
J'ai beaucoup d'amitié pour eux. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy. Eux, ce sont les militants sarkostalgiques qui viennent de l'implorer. Revenez, on a besoin de vous. Je les aime beaucoup, ajoute l'ex-président. Mais ce n'est plus ma vie. Il a raison, dit tristement Brigitte, livre dédicacé sous le bras. Je voudrais qu'il revienne, mais je lui conseille pas.
Non, je sais pas, parce que qu'ils se démènent pour les gens, ils en valent pas la peine. Les personnes, non.
Parce que le pauvre, tout le monde va lui mettre des bâtons dans les roues, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr, parce que là tout le temps, chaque fois, on le met en procès pour ceci, pour cela, il y a toujours quelque chose.
Sur tous les sujets qu'il aborde, Simone Veil, l'antisémitisme, l'Europe, le couple franco-allemand, l'ex-président rappelle et martèle, à présent, dans mon rôle actuel, je ne fais pas de politique, idem au sujet de sa rencontre avec l'intersyndicale de General Electric.
Quand il me demande à me voir, je ne vais pas refuser. Je ne me serais pas permis de demander à les voir. Dans mon statut d'aujourd'hui, je n'aurais pas demandé à les voir. Alors si je peux les aider, je les aiderai. Comment ? On va voir. Je ne prétends pas avoir la solution, mais j'ai pris le soin d'appeler le ministre avant, parce que je ne voulais pas qu'il y ait quelque interprétation politique à tout ça.
Alors on a demandé à Nicolas Sarkozy son avis sur l'état de la droite, des Républicains, la reconstruction. Bizarrement, c'est le moment qu'il a choisi pour remonter dans sa voiture.
Arthur Mbaché à Belfort pour Europe 1, à Albi en clôture du congrès des maires de France. Édouard Philippe a appelé les élus à dépasser les étiquettes politiques bien vieillies, a-t-il dit. Il estime que la réussite de notre pays réside dans cette capacité de dépassement et de rassemblement. Marion Maréchal-Le Pen, elle, fait de moins en moins mystère de son envie de jouer un rôle dans la recomposition politique qu'elle appelle de ses voeux. Les tarifs réglementés du gaz devraient reculer de 6,7% le 1er juillet en raison d'une forte baisse des cours mondiaux du gaz depuis fin 2018. Et cette baisse des prix du gaz concernera plus de 4 millions de foyers. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec un touriste très spécial. A tout de suite sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et depuis quelques jours, la région d'Avignon était en effervescence. La famille Obama, Barack, Michel et leur fille, attendus pour une semaine de vacances, dans le Gard, à Villeneuve-les-Avignon, à quelques encablures de la Cité des Papes. L'hôtel de ville a même ressorti son drapeau américain. Eh bien ça y est, l'ancien président et sa famille sont arrivés sous vos yeux, Stéphane Frangy.
Oui, le jet qui s'est posé peu après 21h30. et une escorte d'une dizaine de véhicules pour l'accueillir. Les phares braqués en direction de la centaine de badauds présents sur place, massés tout autour des grilles aux abords du tarmac et dans le parking également de ce petit aéroport. Beaucoup sont venus ici en famille. L'effet de curiosité à son plein, vraiment pour tenter d'apercevoir même de loin ce touriste, pas comme les autres. Un accueil dans le calme pour le moment, quelques applaudissements à peine et pour cause, hein, il est difficile vraiment d'apercevoir quoi que ce soit. Alors, difficile même de savoir si Barack Obama a bien quitté le jet dont les réacteurs tournent toujours. Autre inconnu, quel trajet pour les Obama entre l'aéroport et l'île de la Barthelas par la route ou bien en hélicoptère. Mais le mystère le mieux entretenu, c'est leur programme de vacances. Quelle visite, c'est la rumeur de la grotte Chauvet circule. Et puis il y a également ces élus du Gard qui ont invité officiellement l'ex-président américain à Uzès ou encore à Nîmes.
On leur souhaite de bonnes vacances. Merci à vous, Stéphane Frangy, à Avignon pour Europe 1. Les États-Unis continuent d'accuser l'Iran après les attaques de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. On assiste depuis hier, depuis l'attaque donc de ces deux bateaux, à une escalade verbale entre Washington et Téhéran. Qui a commis ces attaques? On ne le sait toujours pas avec certitude, mais Donald Trump, en tout cas, semble sûr de lui, Sébastien Krebs.
Ouais, le président américain qui célébrait son anniversaire au téléphone sur sa chaîne préférée Fox News tout à l'heure au réveil a répété que ces attaques portent la signature de l'Iran et il en veut pour preuve cette vidéo rendue publique par le commandement américain, le Pentagone. Vidéo filmée par les services de renseignement. On y voit des hommes s'approcher de l'un des navires attaqués. Pour Washington, il s'agit d'agents iraniens venus retirer de la coque une mine qui n'avait pas explosé et ainsi effacer toute trace. Mais certains spécialistes émettent des réserves. La vidéo est assez floue, sombre, en noir et blanc. On ne peut pas tout distinguer clairement. Certains estiment qu'elle est même inexploitable, qu'en tout cas ce n'est pas une preuve à 100%. Et en face, le président iranien Hassan Rouhani dénonce des accusations sans fondement et je cite l'approche agressive de Washington qui menace la stabilité régionale. En fait, en creux, le régime iranien soupçonne l'ennemi juré américain d'utiliser cette attaque, voire de l'avoir manigancé pour se donner une excuse et accroître sa présence militaire, sa pression sur Téhéran. Alors qui a vraiment commis ces attaques? C'est impossible vraiment de le savoir, mais ce nouvel épisode ravive encore les tensions entre Téhéran et Washington et dans un lieu hautement stratégique, ce détroit d'Ormuz, porte d'entrée du golfe Persique où transite chaque jour 19 millions de barils, un tiers de tout le pétrole mondial transporté par la mer.
Les précisions de Sébastien Krebs pour Europe 1. Et ce soir, le gouvernement britannique affirme à son tour que l'Iran est presque certainement derrière ces attaques de pétroliers. Les sports et le retour de Leonardo au PSG. Cette fois, c'est officiel. Le Brésilien retrouve le poste de directeur sportif qu'il a déjà occupé entre 2011 et 2013. Un peu plus tôt, Paris s'était officiellement séparé aujourd'hui d'Antero Henrique, qui sera resté donc 2 ans. Leonardo, qui est très populaire auprès des supporters, c'est lui qui a attiré dans la capitale, notamment Marquinhos, Verratti, Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. En rugby, c'est demain la grande finale du championnat de France, du top 14 entre Toulouse et Clermont. Une finale entre les deux équipes les plus spectaculaires, hein, sans doute, de cette saison, pour faire oublier justement une saison un peu compliquée pour toute la discipline, Simon Rubin.
Mais oui, cette année, entre la déroute perpétuelle des Bleus, les graves blessures qui ont touché, voire endeuillé le monde amateur, les tensions au sein de la fédération, le procès au prud'homme de Guinovès, il faut reconnaître que le rugby français a eu un peu de mal à briller. Donc là, forcément, c'est une respiration qui arrive. Et puis, au moins là, on est sûr qu'un club français sortira gagnant. Alors, finale d'autant plus intéressante qu'on a affaire aux deux équipes françaises les plus offensives. Toulouse et Clermont, qui sont de très loin les clubs ayant marqué le plus de points. On est en droit d'attendre du jeu, de l'intensité, mais surtout de la vitesse, des passes, des évitements, bref, un rugby assez léger et audacieux. Et puis, peu importe le vainqueur, l'histoire sera belle. Toulouse n'a plus disputé de finale depuis 2012, c'est vraiment la renaissance d'une équipe historique du rugby français. Et puis en face, Clermont, c'est l'équipe qu'on a souvent dit un peu maudite en finale, mais qui a quand même gagné il y a 2 ans. Du spectacle donc, et puis du suspense, cette saison, il faut rappeler qu'il y a eu 2 confrontations, un match nul 20 partout, et une très courte victoire de Toulouse, 47-44.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Toulouse-Clermont, c'est donc demain au Stade de France, coup d'envoi à 21h et on suivra ça sur Europe 1, évidemment. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. On évoquait tout à l'heure les très fortes chaleurs aujourd'hui en Corse. Demain, le temps sera globalement assez nuageux.
Absolument, et orageux d'ailleurs. Ce vendredi après-midi, les pluies très soutenues se sont déjà produites des Cévennes au Jura et ce soir, seront touchées par ces fortes pluies orageuses, l'Ardèche, l'Auvergne, tout en remontant vers la Bourgogne et la Lorraine, en perdant un petit peu de leur intensité. Dans la nuit, ces orages parfois forts se produiront encore donc en première partie de nuit, à l'est du Rhône et de la Saône, entre l'Isère, la Savoie et le Jura. Retour au calme demain matin, avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation dans l'après-midi. Et nous avons déjà 5 départements placés en alerte orange orage, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône à partir de la mi-journée jusqu'à demain soir. Il tombera en deux jours 15 jours à 3 semaines de précipitations. Et ailleurs, eh bien, nous retrouverons les nuages, beaucoup de nuages et quelques ondées le matin sur la pointe bretonne. Les températures restent élevées, quoique en légère baisse sur la Corse.
La météo signée Valérie Darmon,
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Sébastien Soriano. Il est le président de l'ARCEP. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse bien sûr à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et cette semaine se termine sur une note négative pour les marchés à Wall Street.
Oui, on repart en baisse avec un Dow Jones qui perd un petit 0,06%, 26 090 points. Le Nasdaq, moins 0,52%, 7 797 points. Au menu de cette séance, il y avait de bonnes statistiques pour l'économie américaine. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les marchés, mais ça laisse aussi penser que la Fed, la réserve fédérale, ne se pressera pas pour baisser ses taux, d'où cette petite déception du côté des investisseurs. La guerre commerciale continue de faire des victimes. Ce soir, c'est le fabricant de semi-conducteurs Broadcom qui annonce qu'il ne tiendra pas ses objectifs de vente à cause des sanctions américaines contre Huawei. Le fabricant de smartphones chinois est un de ses gros clients. Le titre Broadcom lâche 6%. Les autres fabricants de semi-conducteurs sont emportés par cette chute. Intel perd 1%, Texas Instruments moins 3,5%. Le pétrole reste bien orienté, le WTI gagne 0,4%, 52,51 $ le baril. Le brut toujours dopé par la montée des tensions dans le Golfe après une attaque contre deux tankers. Et puis du côté des devises, le dollar profite de bonnes statistiques et monte. Donc l'euro baisse, moins 0,6%, 1,12 $.
Et du côté de Paris, Claire, le CAC 40 perd un peu de terrain pour terminer cette semaine.
Oui, un léger repli pour le CAC 40 après une séance déjà sans grande conviction. Hier, l'indice parisien perd 0,15%, on est à 5 368 points. Et d'ailleurs, il est resté le CAC quasiment stable sur la semaine. Le plus fort repli du jour est pour ST Microelectronics. Le fabricant de semi-conducteurs est emporté par la chute de Broadcom aux États-Unis. Il perd 3,2%. Autre valeur considérée comme technologique à Paris, la SS2I Capgemini lâche 2,7%.
Et les valeurs automobiles ont également souffert aujourd'hui.
Oui, Peugeot perd 0,9%, Michelin moins 0,3%. C'est du rouge aussi pour Valeo, moins 2,4%. L'équipementier automobile va quitter l'indice CAC 40 qui rassemble donc les 40 plus grosses valeurs pour être remplacé par le groupe d'électronique et de défense Thales. Et puis très bonne fin de semaine pour GL Events dont le titre s'adjuge plus de 5%. Les investisseurs plébiscitent le relèvement de l'objectif de croissance pour cette année. Ailleurs en Europe, c'est du rouge ce soir. Londres perd 0,3%, Francfort moins 0,6%, Bruxelles moins 0,8%, Madrid moins 0,6%, Milan perd 0,1%, Amsterdam moins 0,5%. Et le CAC recule de 0,15%, 5 368 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président de l'ARCEP.
Bonsoir Sébastien Soriano.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms. C'est vous qui surveillez un peu ce marché des télécommunications. Alors on parle beaucoup en ce moment de la 5G. C'est cette technologie qui va nous permettre de faire beaucoup plus et surtout beaucoup plus vite sur Internet, mais qui va aussi permettre aux objets de mieux se parler ensemble. Par exemple pour les voitures autonomes, on a absolument besoin de 5G. Alors pour avoir la 5G en France, il faut que les opérateurs téléphoniques notamment achètent des fréquences. Il va bientôt y avoir des enchères. Il paraît que ça coûte très très cher, 3 milliards à 3 milliards et demi que vous espérez récupérer. C'est nous qui allons payer les consommateurs d'après vous? Vous pensez que nos forfaits vont augmenter?
Alors les redevances ne sont pas encore fixées et ce sera une grande question de savoir qu'est-ce qu'on recherche au niveau de l'État à travers cette attribution. Est-ce que l'enjeu c'est simplement de faire une opération financière ou est-ce que, et c'est ce qu'on va pousser, nous, en tant que régulateur des télécoms, ou est-ce qu'il y a aussi un enjeu sur l'équipement du pays en 5G ? Parce que le plus on ponctionne ces grandes entreprises, le moins elles ont de capacité d'investissement. Or, l'enjeu, c'est vraiment, vous l'avez dit, la 5G, ça ne va pas seulement concerner le consommateur, mais c'est toute la compétitivité, la numérisation de l'économie
qui est en jeu. Donc, vous, ce que vous voulez dire, ça ne sert à rien de les faire payer trop cher au démarrage. Il vaut mieux qu'ils investissent directement dans les outils qui vont nous permettre d'avoir de la 5G le plus rapidement possible. C'est ça que vous dites ?
À tout le moins, il faut trouver un compromis. C'est-à-dire, c'est un équilibre. Si on les ponctionne trop, c'est-à-dire que si on peut pas avoir tout, donc c'est des vases communicants. Donc le plus on ponctionnera en termes d'argent public, et le moins effectivement on aura d'investissement. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est une combinaison, et on la trouvera avec le gouvernement dans les prochaines semaines.
Mais ça doit être très vite fixé, puisque ceux qui vont acheter, ce sont les opérateurs qu'on en connaît tous. C'est Orange, c'est Bouygues, c'est Free, etc., etc. Aux alentours du mois de juillet, là, d'ici quelques semaines, on doit avoir ce qu'on appelle le prix plancher, donc grosso modo le minimum que l'État veut récupérer.
Voilà, donc c'est en cours de discussion, donc je ne peux rien dévoiler aujourd'hui.
Mais quand je dis 3 milliards à 3,5 milliards, on est dans le prix plancher bas ou là vous pensez que c'est un petit peu trop ?
Non, c'est vraiment le haut. C'est vraiment le plafond et la discussion, c'est de savoir effectivement où on se situe entre zéro et cela. Et encore une fois, nous mettrons de l'énergie pour faire en sorte que ça reste raisonnable.
De façon très concrète, pour moi, consommateur, c'est quand la 5G ?
Notre objectif, c'est dès 2020 d'avoir l'ouverture de la 5G en France. Donc ça commencera par le centre de quelques grandes villes, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, il y aura un déploiement progressif sur l'ensemble du pays.
Mais on risque pas d'accélérer la fracture. On parle beaucoup de zones blanches, ces zones dans lesquelles il n'y a même pas encore aujourd'hui Internet. Avec la 5G, on va encore creuser la fracture ?
On va pas se mentir, au début, elle va surtout apporter un peu de confort supplémentaire dans les centres urbains. Mais ça va pas être nécessairement un effet waouh, ça va pas nécessairement être la révolution. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des releases, il y a plusieurs versions technologiques de la 5G qui vont arriver. Et la 5G du début, ce sera une 4G+. Ouais. Donc les risques de fracture territoriale, la question se posera, mais dans un deuxième temps.
Est-ce que pour aller plus vite, on n'aurait pas intérêt à mutualiser un petit peu le réseau de la 5G ? C'est-à-dire pas toujours demander à chaque opérateur de mettre au même endroit chacun son antenne, dire bah, toi tu prends l'ouest de la France, toi tu prends l'est et puis on y va, comme ça au moins on aura de la 5G partout.
Le sujet, c'est la 5G, elle va commencer par les centres urbains. Et donc l'objectif, c'est que les opérateurs utilisent leurs antennes existantes, les modernisent pour pouvoir accueillir la 5G et éviter d'avoir des nouveaux mâts et des nouveaux sites, parce que c'est ça qui potentiellement crée de la nuisance. Et ces nouveaux mâts et ces nouveaux sites, ils interviennent plutôt en zone rurale. Et là, sur ce sujet, dans le cadre de ce New Deal que j'évoquais, nous poussons les acteurs à une très forte mutualisation. Et donc, notamment dans les zones blanches, c'est-à-dire les zones non couvertes, eh bien, les opérateurs ont l'obligation de venir ensemble, à quatre, avec un seul poteau.
Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que bien évidemment, pour avoir la 5G, il faut construire des réseaux. Et là, c'est notamment le fameux chinois Huawei à qui on fait appel. Mais on a des Européens aussi qui savent le faire, comme Nokia et Ericsson. Aujourd'hui, il y a une très grosse polémique, puisque notamment les États-Unis disent que Huawei est une entreprise qui, grosso modo, nous écoute et un peu serait les oreilles de la Chine. Il faut interdire Huawei des appels d'offres en France, Sébastien Soriano ?
C'est pas de ma responsabilité de dire ça.
Mais vous pouvez avoir un avis comme gendarme des télécoms.
Ce que je voudrais, là où je voudrais abonder sur ce que vous dites, c'est que l'Europe a des atouts énormes sur la 5G. Et moi, j'ai entendu des chiffrages comme quoi, si on n'aurait pas Huawei, ça coûterait, je ne sais plus...
55 milliards d'euros
ou des choses comme ça. Moi, je crois qu'il faut arrêter cette vision décliniste et pessimiste de ce qu'est l'Europe de la technologie. Aujourd'hui, effectivement, il y a trois grands équipementiers qui font des télécoms, dont deux sont européens, Nokia et Ericsson. Et donc, l'Europe est en position de force. Deuxièmement, nous avons en Europe des fréquences basses, moyennes et hautes qui sont disponibles pour la 5G avec des calendriers contraignants dans toute l'Europe. Ça n'est ni le cas des États-Unis, ni le cas de la Chine. Si on décidait de le faire, eh bien, l'impact serait tout à fait absorbable. Et l'Europe sera au rendez-vous de la 5G dans tous les cas, et la France en particulier.
Et est-ce que pour vous, c'est capital aussi peut-être d'aider nos champions européens pour ne pas se retrouver dans la situation des GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, où finalement, nous, Europe, on est totalement absent, ce qui vous énerve beaucoup ?
Oui, je crois qu'il faut renouer avec un esprit de conquête. On critique beaucoup les GAFA en disant qu'il faut les réguler, il faut les casser en morceaux. Certainement, certainement. Mais pourquoi ? La vraie question, c'est pourquoi, et moi je crois qu'il faut se battre pour avoir en Europe des acteurs qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont des start-up en fait, qui demain vont devenir ce qu'on appelle des licornes et ensuite qui vont devenir des géants. Et donc pour se battre, pour avoir cet écosystème qui crée vraiment des entreprises nouvelles qui peuvent devenir demain des champions. Ça passe effectivement par une régulation des GAFA. Mais la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on vise à la fin ? Est-ce qu'on vise, c'est une Europe forte, une Europe qui ait effectivement une indépendance technologique, qui ait des grands acteurs économiques qui peuvent peser et qu'on ne soit pas simplement à la traîne et la variable d'ajustement de tensions technologiques.
Et ce combat est encore gagnable d'après vous ?
Absolument, il est gagnable et je pense que ce sera un des enjeux de la prochaine Commission européenne, de la prochaine, du cycle nouveau qui s'ouvre en Europe, que de permettre à l'Europe de gagner cette bataille.
Merci beaucoup Sébastien Soriano, patron de l'ARCEP. Je vous dis à mardi et bien à mardi puisqu'on sera tous derrière l'équipe de France. France-Nigeria de football lundi soir et c'est bien évidemment à suivre en intégralité et en direct sur Europe 1.
Bien évidemment, et donc on vous dit également à mardi Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau, selon vos besoins, à n'importe quelle heure de la journée.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Avec une photo qui risque peut-être bien de vous couper l'appétit, à la une de Libération, celle d'un steak haché qui n'a pas l'air très frais, il faut bien le dire. Avec ce titre, révélation sur les faux steaks, les requins de la viande, sur la trace des dealers de steaks en toc. Libération a retracé le parcours des entrepreneurs douteux qui ont vendu des centaines de tonnes de steaks frauduleux à des associations humanitaires françaises. La Nouvelle République nous présente, quant à elle, Mohamed, 53 ans, qui prépare le bac en compagnie de sa fille. Entre complicité et solidarité, tous les deux se retrouveront lundi pour la première épreuve, la redoutable philo. Bernard Stéphan, dans le journal La Montagne, revient également sur ce bac si convoité. Il est encore une forme de sésame, supposé, pour passer dans l'âge adulte ou pour envisager la suite de la scolarité. Le journaliste rappelle également la grève qui menace. Des enseignants ont prévu de faire la grève de la surveillance des épreuves. C'est une ligne rouge qui pourrait être franchie, le bouton nucléaire à la disposition des syndicats d'enseignants. Mais il est probable que la raison du bachot sera plus forte que la cause des professeurs. Et puis un pétrolier en feu, à la une du Figaro demain matin, Iran, États-Unis, la tension qui monte dans le détroit d'Ormuz. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Washington accuse Téhéran d'être à l'origine de l'attaque de deux pétroliers, malgré les dénégations iraniennes. Et voici donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous découvrirez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute d'Europe 1, vous êtes en compagnie de Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle.
Ravie de vous retrouver.
Également, et on se retrouve à nouveau dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.
Avec plaisir.